Radio Grand Air.
J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me fends le cœur.
Si je connaissais le camp qu'a fait son tel pont.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et on se retrouve sur Radio Grand Air pour notre semaine cinéma avec le cinéma de la Brèche. Et Artek et surtout Pascal,
le maître des lieux. Oui, il est de retour au Cinoche. c'est bon, bonjour Christophe.
Et salut Pascal.
Ça va?
Ah mais ça va très bien et
t'as
toi?
Passé une bonne semaine?
Oui, une bonne semaine.
Tu es allé au cinéma?
Non,
c'est
hélas,
pas bien.
J'ai pas eu le temps. Mais je me suis réservé justement... eh bien un petit peu de temps pour aller au cinéma, ah pour oui. Célébrer le printemps, évidemment.
Le printemps du cinéma qui arrive, bien sûr, à grands pas.
Voilà.
Alors bonjour, avant de commencer, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 97 d'Entracte.
Et voilà, c'est parti,
on est parti.
Pour notre
alors.
Nouvelle semaine avec, évidemment, à l'approche de ces beaux jours, de beaux moments à,
oui, oui.
à ne pas rater au cinéma de la Brèche.
Alors déjà, un petit erratum quand même, j'ai sorti une énormité la semaine dernière. J'avais parlé de Flaubert et de Madame de Sévigné qui n'ont aucun rapport entre l'autre. J'ai confondu. Je pensais que c'était sortait de Madame de Sévigné sortait d'une œuvre de Flaubert, pas du tout. Madame de Sévigné a été, on va dire, connue par c'est sa correspondance avec sa fille.
Ah oui, c'est vrai. Ouais,
j'ai confondu avec Madame Bovary de Monsieur Flaubert. Voilà. Je voulais quand même rectifier un petit
c'est
peu.
Bien,
parce que, mais oui, non. La dernière fois, je me suis réécouté, j'étais là, oh la bourde. Et je suis allé vite regarder un petit peu sur les dernières fois sur Wikipédia, tout ça. Je suis là, oh là là là.
Le standard n'a pas chauffé, hein, ça va.
Non, ça va. Bon, il aurait pu, hein, ils ont eu raison, les gens. Mais enfin, voilà quoi. Voilà, mais sinon, que dire de la semaine dernière? Casque d'or.
Ça a bien marché.
L'opération Casque d'or, mais oui. Le enfin, je veux dire, la journée autour de Serge Reggiani a très bien fonctionné. Les gens étaient là.
Nous avions reçu effectivement Marjorie et Pascal Coll de Chapeau Bas qui menaient l'opération en simultané sur deux lieux. Voilà, donc on est très heureux en tout cas que c'est bien fonctionné.
Non, c'était chouette, on n'a pas chômé, hein. On avait plein de monde à dîner donc dans le hall du cinéma juste après la projection des Casques d'or, hein. Donc avec Serge Reggiani évidemment, parce que c'était la soirée autour de ce personnage là qui était acteur et aussi évidemment chanteur, hein. Mm-hmm. comme tout le monde le sait, enfin du moins une grosse partie des
gens.
Il
a fait une belle
c'est
carrière,
vrai,
hein.
C'est vrai que ouais, ça fait quand même un petit peu de temps qu'il est disparu. Voilà, mais sinon c'était un franc succès, hein. On a fait plus de 70 personnes, hein. ce qui est très très bien, et les gens ont répondu présents, et il y avait une super ambiance. Il y a eu un chanteur qui est venu aussi pousser la chansonnette juste après le film et discuter un petit peu de la soirée, de la vie autour de Serge Reggiani. Voilà, c'est une opération qui a été mise en place par donc Pascal Coll, hein, et l'opération et l'association Chapeau Bas.
Absolument, de Saint-Philippe.
Avec ma collègue donc Marjorie d'Artec, qui est la médiatrice culturelle. Voilà, ils ont monté tous les deux cette opération-là et je tiens à les féliciter parce que c'était super. Franchement, il y avait une bonne ambiance, une ambiance bon enfant et tout. C'était moi j'ai beaucoup aimé. Voilà.
Je vais
quand même leur rendre hommage et leur dire merci. Voilà. Merci.
Au prochain épisode.
Voilà.
Voilà, on trouvera bien un artiste, un comédien, un chanteur.
Oui. Dans tous les cas, ça marche assez bien ce genre d'opération. Tu sais, du temps de la Brèche 1, on faisait des soirées ciné-concerts.
Exact.
On en a fait plusieurs qui marchaient très bien. Hein. C'est vrai que les films marchent mieux si tu les accompagnes. D'ailleurs, il t'as le ciné concert, mais t'as aussi les soirées débats, hein, comme on fait régulièrement à la Brèche.
Les rencontres.
Et comment on va faire aussi la semaine qui arrive.
Eh bien, on va voir avec toi le sommaire de l'émission, Pascal. Cette semaine, quelques rendez-vous à ne pas rater.
Alors, on va parler, de la Brèche. Oui, on va parler déjà d'un film pour les tout petits. Un voyage en bonne compagnie. Alors, c'est vraiment pour de l'initiation au cinéma. Hein. C'est pour, à partir de 3 ans. On va parler aussi du dernier film qu'on aura en sortie nationale de Stéphane Ben Lassen. Karaoké.
On va chanter.
On va chanter, et c'est un phénomène qui cartonne. Alors j'espère que le film cartonnera, mais c'est un phénomène qui cartonne en France, le karaoké. Parce que c'était quelque chose qui était vraiment très très...
Oui, c'est une mode, hein, ça marche toujours.
Oui, oui, mais en fait, c'était vraiment... En Asie, ça fonctionne à mort.
Ah oui, ils sont fans,
ça a mis du temps,
de ce genre de discipline.
Ouais. Avant d'arriver en France, et là, ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. On va parler aussi du dernier film de Jeff Wadlow, Imaginary. Là, on va plonger dans l'horreur, épouvante.
Ah.
Film interdit aux moins de 12 ans. Oh. Voilà, ça va cartonner, saigner dans tous les sens. Bon, voilà. On va parler aussi du dernier film d'Abderrahman Sissako, Black Tea. Ainsi que du dernier film, alors ça c'est un documentaire, hein, de Nathalie Coste.
Oui, thématique.
La théorie du boxeur. On va parler sécheresse, on va parler résilience, on va parler de toutes ces choses-là. On va parler également du dernier film de Nicolas Boukrieff, Comme un fils. Ainsi que du film assez déjanté, hein, de Bruno Dumont, L'Empire.
Un Star Wars à la française.
Un Star Wars à la française, assez déjanté. Hein. Et dans le cadre de la sortie du film L'Empire, alors j'ai choisi comme personnage de la semaine Camille Cotin. Cotin, que tout le monde connaît.
On la voit beaucoup tourner en ce moment à la télévision dans une publicité de café.
Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, ça me désole un peu d'aller voir un petit peu se vendre pour du café ou de la lessive, mais ça reste quand même une bonne actrice.
Avec Jean Dujardin.
Georges Clooney, ouais, Clooney. Mais des fois, tu te demandes, tu te dis, mais ils n'ont pas assez d'argent. Enfin, je veux dire, ils font la pub pour du café, mais ben, c'est pour payer le fisc, payer leurs impôts.
Ah oui, c'est ça.
Moi, je me pose la question, l'impôt sur la grande fortune, enfin, qui n'existe plus d'ailleurs. Enfin, voilà, quoi. Je trouve ça quand même assez
c'est
étrange.
C'est pour arrondir les fins de mois. Hein.
Arrondir les fins de mois, ouais, je pense que c'est ça, ouais. Peut-être. Faudra la poser la question à un de ces quatre, quand même. Enfin, je veux dire, avec les cachets qui touchent, il faut être quand même franchement dépensier pour qu'il ne reste rien à la fin.
Ben oui.
C'est quand même. Bon.
C'est pour les vacances.
Bref.
On va commencer par notre rendez-vous jeunesse cette semaine, Pascal, avec mon voyage en bonne compagnie. C'est à partir de 3 ans.
À partir de 3 ans, exactement. Alors, c'est un programme. Alors, déjà, c'est un film vraiment multinational. Hein. Portugal, USA, France, Danemark, Russie. Pour une fois qu'ils s'entendent tous. Pour une fois qu'ils s'entendent tous, c'est assez intéressant. Donc, c'est un programme de 6 courts-métrages.
C'était avant, ça ?
C'était avant. J'ai pas regardé l'année, mais enfin, c'est pas non plus. Il date pas de 10 ans. Hein.
Ouais.
Donc, c'est 6 courts-métrages. On va retrouver Dodu, le garçon de papier de José Miguel Ribeiro. Donc là, ça sera pour le Portugal. On va retrouver Hannibal, l'éléphant d'Aurélie Montex. Ça, c'est pour la France. La nuit du roi Melchior pour le Danemark. Et le nuage et la baleine pour la Russie. Et cœur fondant pour la France. Alors, il y en a deux français.
C'est bien.
Cocorico. Enfin voilà, donc ça sera vraiment à découvrir si vraiment vous avez envie d'amener vos enfants. C'est à partir de 3 ans, hein. Donc 6 courts-métrages, ça dure pas très très longtemps, donc je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est le moment de mettre les petits un petit peu dans les salles obscures, hein. C'est pas évident, je le sais, hein. Souvent les gamins, souvent ils ont peur d'être dans le noir, hein. Ils se retrouvent dans le noir.
Oui.
Peut-être qu'ils n'ont pas été peut-être trop briefés par les parents. Et je sais qu'il y a des enfants qui n'apprécient pas trop. Quoi. Donc, si vous amenez vos enfants, moi je vous le dis, expliquez-leur ce qui se passe quand même un petit peu avant la séance, notamment se retrouver dans le noir.
Ouais, 3 ans, c'est jeune. Hein,
et oui, bien sûr. Donc voilà, donc ça sera à découvrir à la Brèche. Donc un voyage en bonne compagnie. Donc à la Brèche cette semaine pour les tout petits.
Voilà, et les familles. On va chanter cette semaine.
On va chanter.
Ça fait partie de la une du nouveau programme de la Brèche. Hein.
Ouais, voilà, il faut une grosse promo en ce moment à la télé.
Alors, j'ai pas vu.
Et tant mieux. Tant mieux, mais bien sûr, tant mieux. On va parler du dernier film de Stéphane Ben Lassen, Le Karaoké, qu'on aura en sortie nationale. Hein, la grosse sortie, évidemment, c'est mercredi. Un film français d'1h29, hein, une comédie. Au niveau des acteurs, on va retrouver Michel Larocque. Mm-hmm. Alors, qui chante déjà, Michel Larocque, hein. Alors, elle chante avec les Enfoirés régulièrement.
Oui, alors on ne va pas dire que c'est une grande chanteuse.
Non.
Mais elle chante, en tout cas, voilà.
Elle chante la note.
Oui, c'est déjà
comme
ça.
Comme on dit, dans le jargon, elle chante la note, moi c'est déjà pas mal. Claudia Tagbo,
humoriste. Ouais.
C'est... Oui, alors moi je connaissais pas du tout.
C'est une humoriste.
D'accord.
À l'origine.
Chanteuse aussi.
Bah, écoute,
est-ce qu'elle chante juste
tu... ah, je ne sais pas, j'ai jamais entendu.
David Mora, Sébastien Chassagne, Jochen Hegel, j'espère que je massacre pas son nom, Elia Lexilus, Maëly Dement et Victoria Monfort. Donc après une soirée, on va dire, pleine d'excès, Bénédicte, célèbre chanteuse d'opéra, voit sa carrière s'écrouler. Fatou, passionnée de karaoké, est la seule à lui tendre la main. Elle a une idée derrière la tête, convaincre Bénédicte de participer au grand concours national de karaoké. La parfaite maîtrise vocale de l'une et la ténacité de l'autre pourraient bien faire des étincelles et les amener très loin. Alors, karaoké. Donc karaoké est né de la double envie de Stéphane Benlassen de faire un film joyeux se déroulant dans l'environnement d'un concours et de faire se rencontrer deux mondes qui n'ont rien à voir. À savoir celui populaire dont je suis issu, comme il nous dit, et celui plus privilégié que je connais depuis que je fais du cinéma. Donc le réalisateur s'est documenté en amont de l'écriture et s'est inspiré des véritables championnats de France et du monde de karaoké. Il n'a cependant pas cherché à respecter à tout prix la réalité, mais à mêler cette dernière à ses envies de cinéma. Et comme il nous dit... Un concours plus petit que dans la réalité quand on est au niveau régional pour plus de comédie, plus gros ensuite quand on arrive en finale, donc mondiale, pour plus d'émotion. J'ai aussi ajouté des éléments à ma façon. Le pop-corn duet dans lequel les membres d'un duo doivent chanter un mot sur deux. Bénédicte et Fatou passent cette épreuve sur Alors on danse de Stromae. Donc elle existe mais pas dans les concours officiels. Bah oui, mais ça va être compliqué quand même, c'est quand même une sacrée épreuve. Donc Stéphane Benlassen avait déjà dirigé Michel Larocque dans son précédent et premier long métrage, premier de la classe, et il avait également co-scénarisé deux de ses réalisations, Chacun chez soi et Alors on danse. Et comme il nous dit, je l'imaginais tout à fait capable d'incarner cette grande artiste qui est Bénédicte, je n'avais donc jamais pensé à personne d'autre qu'elle, et quand je lui ai pitché l'histoire, elle a immédiatement été partante. Mais oui, parce que justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'univers du chant, du spectacle, voilà, c'est quelque chose qu'elle pratique assez régulièrement avec la tournée des
enfoirés, hein, ouais,
qui était à Bordeaux d'ailleurs, on parlait il n'y a pas très longtemps. Hein,
absolument.
Parce que j'avais une formation juste à côté du gros paquebot.
C'était l'Arena.
Arkena, ouais. Arkena, comment ça s'appelle?
Ouais, l'Arena, enfin, oui, l'Arena de Florac.
Et oui, et donc je sortais d'un stage de SST, donc on était avec Jean-Jacques. Et là, on est arrivé à 8h du mat, les quais étaient vides, on est sorti, il y avait des marées humaines. Il commence à converger vers 17h, 17h30. Ouais. Et c'est là que j'ai compris que c'était le concert des Enfoirés. C'était blindé.
Voilà. Alors, cette tournée 2024, ça a été aussi l'enregistrement de
l'album.
DVD.
Ouais, de l'album, DVD. D'accord. Ouais, oui, pour les ventes derrière. Coup, bien sûr. Donc, pour continuer, donc Stéphane Lassen n'avait jamais collaboré avec Claudia Tagbo, mais a pensé à elle dès l'écriture. Alors qu'il entamait le scénario de karaoké, il a reçu un message de Michel Larocque, accompagné d'un selfie avec Claudia, pris lors d'un festival. Lors de cette rencontre, la première a annoncé à la seconde qu'elle allait se donner la réplique dans un film dans les mois à venir. C'est donc via Michel Larocque que Claudia Tagbo a appris que Ben Lassen écrivait un rôle pour elle. Et comme elle nous dit, ils se sont aussitôt très bien entendus, d'autant qu'elles avaient envie de travailler ensemble et que la connivence s'est faite aussitôt. Les planètes sont alignées parfaitement. Pendant les lectures que nous avons faites, y compris celles avec tout le casting, j'ai vu que ça matchait parfaitement, raconte le réalisateur. Alors, la question, joue-t-elle en playback?
Alors moi je dirais du playback. Hein.
Ah, Michel Larocque et Claudia Tagbo chantent réellement dans le film.
Ah d'accord, mais
et oui
perdu.
Monsieur, la première en tant que membre de la troupe des Enfoirés, comme je disais, a déjà donné de la voix sur scène, tandis que la seconde a participé à la comédie musicale Ghost, ainsi qu'à la comédie Yo Mama.
D'accord, je ne savais pas.
Les chansons ont été enregistrées en amont du tournage, mais les actrices les chantaient vraiment sur le plateau. Donc Michel Larocque a été accompagné par une professeure de chant lyrique, Caroline Fèvre. Elle et Claudia Tagbo donc, ont aussi travaillé avec Adeline Tuniuti, la professeure de chant de la Star Academy qui apparaît à l'écran dans le jury des championnats du monde au Japon. Alors le Japon, oui, elles partent au Japon. Et l'équipe s'est vraiment rendue au Japon durant une semaine, hein, préparation et repérage compris. Elle était composée d'une trentaine de personnes comprenant une partie de l'équipe française épaulée par une équipe de production et de techniciens japonais. Comme on dit bonjour en japonais.
Konnichiwa.
Très bien. Et en vietnamien?
Ah, je ne sais pas.
Xin chao.
Merci.
Bon, voilà, ça n'a rien à voir, mais bon,
en fait, le karaoké, le karaoké, ça vient de quel pays?
Alors,
Vietnam,
je ne sais pas.
Thaïlande,
je sais qu'il a, il a eu un énorme succès en Asie, même et au Japon aussi, enfin tout ce côté là
Corée
peut-être. Le Vietnam, ça, c'est sûr que c'est bien implanté, parce que quand j'ai fait mon voyage, quand je suis parti à Hanoï, tu allais, moi on se tapait vachement de restaurants, tu sais, sur les restaurants ouvriers où tu manges sur un tout petit tabouret. Mmh. Et tu manges charisme à ras du sol, tu sais, et puis à ras des dépôts d'échappement, c'est pas mal ça, c'est la première fois que j'ai fait ça. Et donc, c'est pas très cher, hein, c'est 50 centimes d'euros. Hein. Et donc, t'es assis à moitié dans la rue, un peu sur le passage, enfin le trottoir. Et là, tu vois une personne qui pousse une énorme baffle, avec un micro à la main. Et en fait, c'est le karaoké, il est ambulant.
Ah ouais, d'accord.
Tu vois, c'est, il se déplace le gars en fait. Ouais. Il vient foutre l'ambiance dans les petits restos, les bars, il rentre, voilà. Et c'est, je trouve ça vraiment chouette quoi. Donc t'as cette partie là aussi de karaoké, karaoké ambulant. Si tu vas par exemple au Japon, tu loues des cabines.
Ah ouais, carrément.
Tu loues des cabines.
Ouais.
Ou entre potes, tu vas, tu loues pendant 2 heures et tu fais ta playlist. On te donne 2 micros et c'est parti. Quoi. C'est Star Academy entre amis. Ou alors. Il y a eu un reportage qui a été fait dans la presse française il n'y a pas très longtemps. Il y a un gars qui a une excellente idée, je trouve, qui fait le karaoké en France. Là, tu as les deux formules. Soit tu loues une cabine, ou alors soit tu vas dans la salle où il y a tout le monde, en fait. Et c'est à tour de rôle, en fait. Tu te présentes, il y a un animateur, tu vois, une espèce de DJ qui est là et qui lui fait passer les gens, en fait.
Ouais.
Tu choisis ta chanson et tu pousses la chansonnette. Voilà. Et ça prend de plus en plus d'ampleur en France, ce qui est tant mieux. Puis tu sais, c'est poussé aussi par tous les programmes que tu peux trouver maintenant, comme The Voice, tu vois, ce genre de choses
qui cartonnent
au niveau audience.
Hein,
n'oubliez pas les paroles, voilà, ça reste un peu là. Voilà. Et ça remet le chant, on va dire, au goût du jour, ce qui est très bien.
Il paraît que le chant, c'est bon pour le moral.
Très bien. Ah, mais carrément, oui. Mais même aller se produire devant autrui aussi, ça fait du bien au moral. Parce que mine de rien, même si tu chantes mal, on va quand même t'applaudir pour la participation, tout ça. Parce que, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a toujours cette ambiance vraiment, vraiment sympatoche, quoi. Et c'est très bien. Et oui, c'est bon pour le moral, c'est exactement, quoi. Et puis, je pense qu'on en a tous besoin en ce moment, de rigoler, de se marrer, de chanter aussi. Hein. Donc, oui, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Et je dis tant mieux, tant mieux.
Karaoké. Voilà, si vous avez envie de
la brèche,
découvrir Michel Larocque derrière un micro, on va découvrir ensemble un extrait de la bande-annonce et on se retrouve juste après.
Le chant, c'est ma passion.
Merci.
Quoi, ça va bien?
Je dirais plutôt que vous avez une voix un peu difficile.
Je ne peux pas associer le nom d'une diva à celui de karaoké, ça ne marche pas. Tu es mise à pied.
Votre voix, ma présence, on va tout déchirer.
J'ai envie de dire bonjour à n'importe qui.
Vous êtes nuls, nuls. Je vous préviens, à partir de maintenant, c'est Nagui. Matin, midi et soir, et je bloque ses paroles.
Moi, je veux bien tout ce que vous voulez, mais c'est pas possible, votre posture. Vous serrez le popo, et maintenant, vous laissez sortir l'air.
Pardon?
Pas tout.
On a la complètement 3 semaines. Il faut tout savoir sur le bout des doigts.
Ce soir, je suis bleu vers les coups de minuit. Je veux pas te blesser, alors je dis que t'es mini.
Mimi, pas mini.
Ah,
une erreur comme ça en France et on est morte. Hein. Si on se qualifie ce soir, c'est direction Tokyo pour le championnat du monde. La mecque du karaoké. Rassurez-moi, vous comptez quand même pas gagner.
Mais pourquoi pas, Fatou? Imaginez les cunus, ça va vous détendre.
Voilà, on va chanter dans karaoké.
Voilà, et surtout se détendre.
Voilà.
Et rigoler. C'est fait pour. Hein.
Ce film-là, c'est vraiment, vraiment fait pour. Tiens, ce serait une bonne idée de lancer un petit karaoké à la brèche.
Ouais, sans moi.
À voir.
Non, je suis un piètre chanteur d'ailleurs. Je ne suis pas chanteur du tout d'ailleurs.
Marc, voilà. Il y a des chanteurs qui chantent, enfin qui parlent. Hein.
Pas obligé
de chanter.
Oui, bien sûr. Mais moi, je préfère faire de la musique.
Composer.
Du piano, de la guitare, voilà, ça, de la rigueur, j'y arrive.
Allez, on enchaîne pour notre prochain rendez-vous à la brèche cette semaine. Qu'est-ce que tu nous as choisi, Pascal?
Un film sombre.
Ah oui, c'est vrai.
Un film horrible.
On va flipper, là.
Épouvantable.
Interdit au moins de 12 ans. D'accord.
Signé Jeff Wadlow. Un film américain d'une heure 45. Imaginary. Au niveau des acteurs, on va retrouver Devanda Weiss, Tom Payne, Tegan Burns, Piper Brown, Veronica Falcon, Betty Buckley, Matt Sato et Dane DeLiegro. Alors, lorsque Jessica retourne dans sa maison d'enfance avec sa famille, sa plus jeune belle-fille Alice développe un attachement étrange pour un ours en peluche qu'elle a trouvé dans le sous-sol et est nommé Chauncey. Tout commence par des jeux innocents, mais le comportement d'Alice devient de plus en plus inquiétant. Jessica comprend alors que Chauncey est plus qu'un simple jouet.
Voilà. J'aime bien.
Bref, je pense que ça va déménager avec le petit ours en peluche.
Oh, tu m'étonnes.
Voilà, ça sera découvrir la brèche, donc interdit au moins de 12 ans, hein.
Ah oui.
Voilà, il faut vous passer quand même d'amener vos enfants.
Elle est envoûtée ou c'est... on ne sait pas.
Eh bien en fait, je pense que ce petit ours en peluche est maléfique et reporte son maléfice sur la petite fille. Cette jeune fille justement qui devient possédée.
Ah oui.
Donc c'est un cas de possession.
Bon. Eh bien on verra cela si vous avez envie de frissonner. Eh bien, ne ratez pas ce rendez-vous, en tout cas, à la brèche, cette semaine, voilà, pour les amateurs, parce qu'il y a des fans de...
Il y a des fans, oui, bien sûr. Mais
de frissons,
oui,
comme ça.
Oui. Oh, ouais, ça marche assez bien, hein, sur une ou deux séances. Hein, j'espère. Bon. Voilà, on croise les doigts.
Allez, on restera accroché au fauteuil. On va enchaîner avec un autre rendez-vous cette semaine, Black Tea.
Black Tea, oui, des choses un peu plus poétiques.
D'accord.
Plus voluptueuse qu'un ours en peluche possédé par le diable. Black Tea, donc c'est le dernier film d'Abderrahmane Sissako. C'est un film franco-luxembourgeois taïwanais d'1h49. C'est un drame romance. Au niveau des acteurs, évidemment, on va retrouver des acteurs taïwanais essentiellement.
Oh, bon courage.
C'est parti. On va retrouver Nina Mello, qui n'est pas taïwanaise.
Ça va, ouais.
Han Chang, Wu Keksi, Michael Chang, Pei Jian Yu.
Il fait du tennis, lui, non?
Michael Chang?
Non.
Oh ouais, c'est son ancêtre, il y a très longtemps. Pei Jian Yu, Wayne Wong, Emery Gayuranji et Isabelle Cabano. Donc c'est l'histoire d'Aya, une jeune femme ivoirienne d'une trentaine d'années qui dit non le jour de son mariage à la stupeur générale. Immigrée en Chine, elle travaille dans une boutique d'export de thé avec Kai, un Chinois de 45 ans. Aya et Kai tombent amoureux donc. Mais leur histoire survivra-t-elle au tumulte de leur passé et aux préjugés? Voilà un film intéressant. Donc Blatty, c'est la rencontre entre la Chine et le continent africain. Si les personnages d'Aya et Kai incarnent la rencontre sociale, politique et économique entre l'Afrique et la Chine, il s'agissait avant tout pour le réalisateur Abderrahmane Sissako de nourrir son cinéma d'un imaginaire inattendu. Et comme il nous dit, j'aurais très bien pu raconter cette histoire dans un autre contexte géographique. Pour ce qui est de l'identité culturelle, je ne réfléchis jamais à des personnages définis par leur appartenance à un peuple particulier. Alors c'est un projet de longue date, hein. Black Tea est un projet d'Abderrahmane Sissako qui porte en lui depuis 2007. Hein. Comme il nous dit, le succès de Timbuktu, évidemment c'est le réalisateur de Timbuktu, hein, un film qui a eu du succès, aurait pu me permettre de le tourner entre-temps, mais il fallait qu'il mûrisse. L'exil et le départ sont des thèmes qui intéressent particulièrement le réalisateur. Et comme il dit, j'explique que quel que soit l'endroit d'où l'on vient, les gens se retrouvent dans l'envie d'une vie harmonieuse à travers une entente et une compréhension des autres. C'est ce qui est le cas donc, entre Aya et Kai. Donc on peut entendre dans Black Tea une reprise de Feeling Good de Nina Simone par Fatoumata Diawara, une manière pour le réalisateur de marquer un renouveau. Et comme il nous dit, autant par la force de cette chanson que par la personnalité de Fatoumata, qui est une femme extraordinaire qui mène un combat pour les femmes. Qu'elle chante Nina Simone en Bambara rejoint mon moteur sur ce film, l'envie de raconter la possibilité d'un monde en mouvement vers une harmonie. Voilà un très bon scénario à découvrir donc à la brèche cette semaine.
Black Tea.
Black Tea.
Eh bien, on a bien noté ce rendez-vous, Pascal. Et on va parler d'un autre rendez-vous, une sorte de rencontre.
Voilà, alors là, c'est moins glamour, oui. C'est beaucoup moins glamour.
C'est un sujet qui fait réfléchir et surtout qui malheureusement est d'actualité.
La notre sécheresse, planète. Oui, la sécheresse. La sécheresse, et comment, on va dire, réadapter l'agriculture face justement à ce déficit hydrique, ce stress des sols qu'on a rencontré ces dernières années, qu'on risque de rencontrer évidemment un peu plus tard. Voilà, donc ça sera. Alors, déjà, je vais quand même annoncer la soirée, ça sera le mercredi 20 mars à 20h15. Il y aura un ciné-débat. C'est une séance organisée avec les butineurs du bonheur, ainsi que Aura du Sol et la Confédération Paysanne de Dordogne. Donc, les Gratteleurs et le Grand Libournais, donc projection suivie d'un débat autour des enjeux de l'alimentation durable, de la biodiversité et le sol vivant à l'échelle de notre territoire. Les acteurs locaux présents échangeront sur les actions et les axes à mettre en œuvre au niveau local. Donc, on va dire comment se prémunir un petit peu de cette catastrophe qui est le dérèglement climatique et donc qui engendre évidemment des sécheresses, oui, et pas que des sécheresses.
Oui.
Elle engendre aussi des précipitations absolument énormes en pluie. Comme on a pu le voir un petit peu
on a des déséquilibres.
Hein. Voilà. Y a un truc intéressant par rapport à ça, justement, qui va à l'encontre de la sécheresse. Ils ont fait un papier dans le Sud-Ouest en disant que les nappes souterraines était en train était saturé. Et on revoit apparaître, alors évidemment, on était dans une réunion Artec il n'y a pas très longtemps, donc je t'ai parlé tout à l'heure, à Saint-Médard-en-Jalles, et donc tu passes sur les côtés de Libourne, et tu passes dans le Fronsadé, tu vois, là, tu as la butte de Fronsac avec son château.
Oui.
Et quand tu passes sur la Rocade, tu vois en fait tous les marais, les zones humides.
Oui, oui.
Et d'ailleurs, entre parenthèses, si vous voulez voir des lignes de cigognes, vous en avez sur les lignes à haute tension.
Exact, ouais.
Et donc du coup, là, elles étaient aux anges. J'étais bien content pour ces cigognes-là, parce que justement, elles retrouvent un petit peu ces marais qui autrefois étaient inondés, et d'ailleurs, qui a servi d'ailleurs de protection au château, le premier château médiéval qui a été construit donc, sur cette butte de Fronsac, et qui date de Charlemagne.
D'accord.
Parce que le Fronsac, ça veut dire Castrum Francorum. Et c'est là où Charlemagne a installé ses premiers castrums pour mater les Aquitains, qui étaient un peu trop rebelles, on va dire. Et donc, c'est là que tu vois que ce château-là était vraiment planté au milieu des marais. Et donc, tu vois tous les marais qui, maintenant, tu les vois maintenant, les zones humides. Avant, on les voyait plus. On les voyait, allez, à la période novembre, décembre, janvier, tu vois, quand vraiment ça sature un petit peu. Et là, tu les vois, on est en plein mois de mars, on arrive sur le printemps, et les nappes saturent, et on voit tous les marais apparaître. Et on voit toutes les zones humides. C'est quand même assez intéressant. Hein. Donc voilà, il y a ça aussi dans le changement climatique. C'est-à-dire que tu peux avoir des excès un petit peu dans les deux sens. Alors, les grands thèmes du film. Donc, le dérèglement climatique et les stratégies pour s'y adapter sont variées, parfois complémentaires, mais sous-tendues par des visions du monde très différentes. Solutions techniques, génie génétique, agroforesterie, agriculture de conservation. Donc, que mettent les agriculteurs en place? Quelles sont leurs craintes, leur vision des changements? Donc, l'autre sujet, c'est l'alimentation et la résilience alimentaire. Donc, les circuits longs et moyens ont un rôle prépondérant dans nos modèles de consommation. Comment se connectent agriculture et alimentation sur un territoire? Quelle part de la consommation représente l'alimentation produite localement? Ça, c'est intéressant.
Ah bah oui.
Très intéressant. Et pourquoi les circuits courts sont une partie de la réponse au changement climatique? Quelles solutions créent plus de résilience alimentaire? Le rôle du vivant aussi, hein, dans les airs, sur terre et dans les sols, les écosystèmes sont complexes et interconnectés. La crise du dérèglement climatique s'accompagne d'une forte érosion de la biodiversité dans les champs. Différentes pratiques se développent pour favoriser cette biodiversité. Sol couvert, plus riche en matière organique et stockant du carbone, protection de la faune auxiliaire, comme les oiseaux, les insectes. Ces deux crises ont-elles un lien? Voilà aussi une autre très bonne question. L'autre thématique, la place de l'eau. Alors évidemment, tout le monde pense aux bassines, qui est pour moi une grande invention. D'ailleurs, j'ai jamais vu. Juste pour la petite parenthèse sur les bassines. Bon, je comprends qu'on puisse stocker de l'eau pour l'hiver, pour l'été et tout ça, mais un truc que j'ai jamais compris. Et c'est pourquoi ouvrir une telle étendue d'eau à la face du soleil, compte tenu de l'évapotranspiration qui est terrible par 40 degrés.
Ouais.
Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai jamais compris.
Ouais.
Donc c'est pas très, très technique le truc. Hein. Enfin bon. Donc la place de l'eau, donc l'eau est au cœur de tout système vivant. Le territoire de la vallée de la Drôme, donc il sera question dans le film, classé en zone de déficit hydrique depuis 95. Ça devient une guerre, hein, c'est même plus une lutte. Hein. Est en position de fragilité. En quoi l'irrigation pour les productions de la basse vallée est-elle importante? Quel pourrait être le rôle de futur stockage d'eau? L'évolution du climat nous pousse à repenser notre système agroalimentaire gaspilleur en ressources. Quid du maïs et du soja gourmand en eau et souvent destiné à l'alimentation animale? Qu'en est-il des légumineuses économes en eau mais peu plébiscitées par les consommateurs? Voilà. toutes ces questions donc on va être soulevées un petit peu dans ce documentaire qui va être vraiment super intéressant. Alors,
oui, avec des passionnés hein, qui seront présents.
Exactement, donc tu auras des acteurs aussi, hein, les agriculteurs, ceux qui sont vraiment en première ligne hein, et qui doivent repenser le modèle agricole, hein, qui soit un petit peu dans tous les modèles, que ce soit l'élevage, on va dire le maraîchage, et aussi le phénomène aussi qui touche ici une autre production donc, qu'on oublie un petit peu aussi, hein, la vigne.
Ah oui.
Le secteur agricole, le secteur viticole est en crise totale, hein, c'est-à-dire qu'on est en surproduction.
Ouais.
On est en surproduction d'épinards, ça veut dire qu'il y a une concurrence extérieure qui est quand même assez farouche, hein, et donc on a été mis en place depuis cette année la prime d'arrachage. La prime d'arrachage, à l'arrachage, oui, mais après, c'est là qu'il faut repenser, on va dire, son système de production. Que fait-on ? Alors il touche quoi ? Il touche 6 000 euros l'hectare. Donc tu as 6 000 euros, alors soit pour combler ta trésorerie, ils en ont grand besoin, hein, mais évidemment. Hein. Ou soit, c'est pour réinstaller une autre
production. Production. Ouais. Ça peut être du blé, par exemple.
Alors, je ne sais pas s'ils vont redevenir céréaliers. Hein. Ouais. Ça, je ne sais pas, mais c'est une question aussi à soulever. Ouais. Tout ce que je sais, c'est qu'en allant sur Sauveteur de Guyane, j'ai vu des systèmes qui étaient en train de changer. Hein. Ils n'ont pas attendu les primes d'arrachage, les gars. Donc, je vois de plus en plus des oliviers se mettre en place, voilà, des gens qui font voilà, d'autres productions, dont l'olivier. Pourquoi pourquoi pas faire de l'huile, je trouve que c'est quand même... Et en plus, franchement, je trouve que c'est un bon créneau parce qu'il y a la sécheresse au Portugal et dans les pays producteurs, le prix de l'huile a explosé, hein, tu le sais ça. Mm-hmm. Et il y a même, ils se sont rendus compte que, je crois que c'est au Portugal, j'avais vu un petit documentaire dessus, il y a des vols d'olives dans les oliveraies. Des vols d'olives, les gars, ils pètent les branches, ils cassent les branches, ils vont même pas les chercher en haut de l'arbre, hein. Ils cassent les branches, ils vendangent pendant toute une nuit, et après ils vont faire des pressions à froid, et après évidemment ils vont frelater l'huile, c'est-à-dire qu'ils le mélangent avec de la merde, quoi, de la flotte, d'autres, de l'huile à la con, enfin tu vois, ouais. Et ils le vendent au prix fort.
Ouais.
Au prix fort, avec l'étiquette première pression à froid, quoi. Donc voilà, donc tout ça pour parler. Il y aurait plein de sujets. Je trouve que c'est vachement intéressant de faire une soirée là-dessus, parce que il y a des gens qui sont en attente de réponse, hein, par rapport à ça. Il y a des gens qui sont un petit peu largués. Ils savent pas comment repenser, on va dire ce modèle, le nouveau modèle agricole qui va être, on va dire, greffé sur des déficits, on va dire hydriques potentiels. Voilà.
On se réadapte, en fait.
Voilà. Donc, je vous rappelle quand même la soirée. C'est mercredi 20 mars à 20h15, un ciné-débat à la Brèche. Hein. À mon avis, ça va être animé. Hein.
Oui, c'est...
Oh là, je crois que...
Passionnant.
Ça va être roule. Ouais, et tant mieux.
allez-y, effectivement. La théorie du boxeur, voilà, pour se sensibiliser et savoir un petit peu plus.
Alors, le pitch, quand même, hein. Là, je vais dégager la thématique, mais le pitch, c'est de Nathanael Coast. J'ai oublié de le citer, Nathanael Coast, donc un documentaire français d'une heure 37. Hein. Donc, vague de chaleur, sécheresse, gel tardif ou ravageur, le climat se dérègle et notre agriculture doit bifurquer. Mais vers où ? Nathanael Coast enquête dans la vallée de la Drôme pour comprendre comment les agriculteurs s'adaptent tout en questionnant la résilience alimentaire des territoires. Voilà, c'est vrai que ce sont des zones quand même, qui sont quand même impactées, comme voilà, ils mènent une guerre de l'eau depuis 1995. Hein, et c'est vrai qu'on a assisté quand même à des drôles de phénomènes au niveau des restrictions d'eau là-bas. Hein, il y a des maires qui refusent maintenant des permis de construire.
Oui.
Parce qu'ils n'ont pas la ressource en eau. C'est quand même assez inquiétant. Tu as des villages qui se retrouvent un petit peu dans le même scénario que Jean de Florette.
Ah oui, c'est vrai.
C'est le même scénario. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu as la cuve qui arrive régulièrement dans le village. Alors évidemment, les gens ne viennent pas avec des brocs et des seaux, hein. Mais en fait, ils balancent dans la citerne du village et voilà, et tu as tant de mes cuves par jour. Et à ne pas dépasser, évidemment. Parce que ça, voilà. Donc inutile de te dire que les piscines, tu n'y penses même pas, quoi. Voilà. Donc oui, ça prend de l'ampleur, évidemment. Donc voilà, donc ça sera vraiment une chouette soirée, je pense. Hein.
Voilà, donc ne ratez pas ce rendez-vous, on l'a dit, pour ces rencontres de la Brèche cette semaine. On va parler d'un autre film avec le retour de Vincent Lindon sur les écrans.
Oui, absolument.
C'est un film intéressant, là aussi, voilà, le décrochage. Comment rattraper un jeune adolescent peut-être en perdition.
Et pris, on va dire, entre deux mondes, entre le monde éducatif et surtout le monde familial, on va dire, qui dans de bonnes conditions, on va dire. Mmh. Comme, comme un fils, le dernier film de Nicolas Boukrieff, un film français d'1h42, c'est un drame. Au niveau des acteurs, on va retrouver Vincent Lindon, Caroline Rocher, Stéphane Virgile Stoïka, Sorine Mihai, Florent Opache, Robert Opache, Guillaume Drault et Saïd Essaoui. Donc c'est l'histoire de Jacques Roman, qui est un professeur qui a perdu sa vocation, hein, témoin d'une agression dans une épicerie de quartier. Il permet l'arrestation de l'un des voleurs, Victor, 14 ans. Mais en découvrant le sort de ce gamin déscolarisé que l'on force à voler pour survivre, Jacques va tout mettre en œuvre pour venir en aide à ce jeune parti sur de si mauvais rails, quitte à affronter ceux qui l'exploitent. En luttant contre les réticences pour tenter de lui offrir un meilleur avenir, Jacques va changer son propre destin. Alors, la naissance du projet. Alors, comme un fils est né de deux idées. Après l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020, Nicolas Boukrieff voulait écrire un film sur l'importance de la figure du professeur et leur rendre hommage. Le metteur en scène se rappelle. Mais beaucoup de longs métrages ayant déjà été faits sur le sujet et de très bons, je cherchais dans mon histoire à sortir de la structure professionnelle dans laquelle ce personnage évolue la plupart du temps pour parler de la figure d'un professeur en soi, hors de son contexte. Hors de l'école, du collège et du lycée, qui servent quasi systématiquement de cadre aux films sur l'éducation. La seconde idée est née en voyant sur scène plusieurs humoristes faire des pics d'un humour assez pauvre sur la communauté des Roms. Je me suis demandé pourquoi ces humoristes, immigrés de deuxième ou troisième génération et qui évoquent régulièrement le racisme dont ils ont peut-être les victimes, tapaient volontiers sur les Roms. Tout comme du reste des comédies françaises grand public. Ah, cela m'a donné l'envie de me renseigner sur cette communauté qui souffre sans doute aujourd'hui de la plus grande forme de racisme endémique, puisque tout le monde se permet de la moquer méchamment, voire violemment, sans aucun complexe. Alors la figure d'Oliver Twist. Et c'est vrai, quand on parle d'exclusion, il a pensé à ce personnage-là. Au fil des recherches de Nicolas Boukrieff auprès des associations et des services de police concernés, le cinéaste a eu la confirmation que les jeunes Roms sont des sortes d'adolescents sauvages qui ont certes la culture de la rue, mais qui pour un certain nombre ne savent ni lire ni écrire parce qu'ils se sont déscolarisés. La figure d'Oliver Twist s'est alors imposée et m'a inspiré l'envie de retracer le destin d'un de ces gamins, non pas du côté des méchants qui l'entourent et l'utilisent, mais de celui d'un prof retiré qui le prendrait sous sa coupe pour lui venir en aide. Cela devenait ainsi une version 2.0 de L'Enfant Sauvage, confie le réalisateur. Entre parenthèses, très bon film, L'Enfant Sauvage. Donc Vincent Lindon, donc, de la partie. Alors qu'il réfléchissait à cette histoire, Nicolas Boukrieff a rencontré par hasard Vincent Lindon par l'intermédiaire du producteur Richard Grandpierre. Lorsque le cinéaste a fait lire le pitch de ce film à l'acteur, ce dernier a immédiatement manifesté son enthousiasme. Et comme il nous dit, après avoir fait entrer Éric Bénard immédiatement dans la boucle pour le scénario de Comme un fils, j'ai donc commencé à écrire pour Lindon. J'ai rédigé beaucoup de mes films en pensant uniquement aux acteurs qui ont fini par les interpréter, mais c'était la première fois que je soumettais un script aussitôt à un comédien, quasiment au fil de son écriture. Et j'ai trouvé cela très enrichissant parce que ça permet d'avancer en se rapprochant de plus en plus de ce qui correspond vraiment à l'acteur. Vincent Lindon était en outre très investi à chaque version du scénario. Il apportait un éclairage et des idées très diverses et intéressantes, même si, évidemment, il fallait faire le tri. Donc en discutant avec beaucoup de professeurs, Nicolas Boukrieff s'est vite retrouvé confronté à ce problème de vocation qui perturbe aujourd'hui le pays. Et il précise, ce métier engendre un immense questionnement de sérieux doutes et on le comprend quand enseigner devient un motif d'assassinat. Dans ce contexte, et j'ai voulu brosser le portrait d'un prof en crise de foi, Jacques Roman est un personnage à la Simenon, totalement déprimé et en quête de sens. N'arrivant plus à exprimer son idéal en tant que prof, il s'est retiré de l'éducation nationale. Le fait qu'il enseigne et qu'il n'enseigne plus me permettait aussi d'interroger le métier plutôt que de le filmer uniquement dans sa pratique. Et de raconter au fond que le malaise de beaucoup de professeurs vient de leur relation à la structure dans laquelle ils évoluent plutôt que d'un sujet du fait même d'enseigner. Voilà un petit peu pour vous éclairer sur la dernière création donc, de Nicolas Boukrieff, donc Comme un fils, qui sera à découvrir à la Brèche cette semaine.
Voilà, un film intéressant, on propose d'écouter un extrait et on se retrouve juste après.
T'as planqué quoi sous ta veste?
J'ai peur que t'as...
Ah, il rend ce qu'il a pris, c'est tout.
Arrête.
J'arrive plus à les comprendre. Je sers à quoi? Je leur apporte quoi, moi?
Tu déroules ton programme, et tant mieux pour ceux qui suivent.
J'ai eu envie d'être prof pour penser comme ça, moi.
Oh, police.
Non, je sais pas appeler la police.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un gamin qui est tabassé, il a plein d'hématomes. Enfin, vous savez, ces mômes-là, ils sont quasiment impossibles à identifier.
jedno blinkeš i paniš.
Upališ ću.
Moj ankol.
Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous tenez tant à vous occuper de lui.
C'est normal, vous auriez fait quoi à ma place? Je n'ai pas le rejeter à la rue. You can sleep here tonight. It's possible.
Je suis pas pute. I don't sleep with you.
Yes, good.
Je fais quoi alors? Je le relâche?
Il est malin, il est attentif, il est... It's very good.
Je le laisse retourner chez lui pour qu'il se fasse tabasser, c'est ça?
When you know how to read, when you know how to write, il pourrait aller à l'école, ce serait une chance pour lui. You are in the world. J'ai le sentiment qu'il est en danger, cet enfant.
La question, c'est de savoir comment on l'aide. Parce que la manière dont vous allez l'aider...
Dis-lui qu'il faut qu'il arrête de taper Victor.
Ça peut encore plus le mettre en danger.
C'est Victor. Il a besoin de toi.
Voilà, avec Vincent Lindon de retour dans ce film Comme un fils, à voir absolument cette semaine à la Brèche, Pascal.
Absolument.
Et on va changer totalement de registre, on va faire un petit peu de science-fiction. Je vois que
ouais,
tu
française.
Es très, très, on va dire... séduit par ce rendez-vous, alors je ne sais
alors
pas.
Alors séduit, non, mais oui, mais moi je suis séduit déjà par tout ce qui est loufoque, évidemment.
Mais oui, parce que là c'est vraiment décalé.
Oui, parce que déjà, on va dire Bruno Dumont, on va parler de l'Empire, du dernier film de Bruno
L'Empire.
Dumont, c'est un film français d'une heure cinquante, d'une comédie dramatique. Bruno Dumont, oui, moi je le connaissais pas trop comme ça, parce que moi j'avais bien aimé en 97 La vie de Jésus.
Ah oui,
c'est de l'immersion un petit peu là vers les Flandres, la Belgique. Il a réalisé Flandre aussi, Bruno Dumont. Je crois que c'est vraiment en 1996. Mais là, il fait fort quand même. Enfin, je regarde le film annonce. J'ai pas vu le film évidemment. Puis je suis pas là pour critiquer les films non plus. Hein. Je suis là pour les présenter. C'est ce qui est totalement différent. Mais on retrouve dedans, on va dire un petit peu l'univers loufoque complètement barré, déjanté de Quentin Dupieux. Là, pour tous ceux qui ont regardé un petit peu Mandibule, Dali, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Donc on est un petit peu là-dedans, donc c'est quelque chose où il faut se laisser embarquer. Il faut se laisser embarquer, et puis... mais effectivement, c'est inspiré de La Guerre des Étoiles.
Ah oui, un Star Wars à la française, voilà. Ouais.
Alors pour ça, quand même, il a quand même un sacré... on va dire un groupe d'acteurs, donc on va retrouver
Nina Koudry,
on va retrouver Anna Maria Bartolomei et Camille Cotin, Fabrice Lucchini,
ah oui,
en grand méchant, Brandon Vlieg. Et donc c'est, le pitch il est tout bête en fait. C'est entre Malout, c'est un film qu'il a réalisé aussi, et La vie de Jésus, Bruno Dumont nous offre une vision caustique, cruelle et déjantée de La Guerre des Étoiles. C'est le pitch, c'est ça.
Ah, d'accord.
Mais après, il faut bien se concentrer quand il explique un petit peu sa vision des choses, parce que c'est quand même quelque chose. Donc Bruno Dumont explique ce qui lui plaît dans la typologie et l'univers des films intergalactiques tels que La Guerre des Étoiles. Alors, il nous dit, au cinéma, les odyssées spatiales, avec plus ou moins de bonheur, sont un grand spectacle très cinématographique où se joue métaphoriquement, pour ses accointances avec les lieux et les abîmes de notre vie intérieure, les grandes questions métaphysiques irrésolues de l'humanité, la quête absolue, l'origine et la fin du monde, la lutte du bien et du mal, l'apocalypse, l'exil, l'invasion, les mystères de la vie et de l'amour, le tout avec des héros mythologiques sous les dehors et les ressorts inépuisables des lieux et des temps, ceux du passé, du présent et de l'avenir. L'espace intergalactique au cinéma est ainsi un paysage représenté et naturellement formé. Méditatif, propice à la poussée de leur vaisseau à de grandes spéculations, voire à de vraies tripes, à l'au-delà de tout. L'infini n'est même plus une abstraction, on le voit, ainsi beaucoup de questions et de mystères inconcevables sur la Terre trouvent dans l'espace cinématographique, sinon des réponses, au moins des représentations, c'est-à-dire déjà des équivalences. C'est donc un vrai lieu de connaissance et d'exploration pour que les mystères s'y pointent, ainsi que les échos les plus approchants de ceux de notre âme dans l'univers infini et le berceau. Cela peut être fabuleux. Vous voyez, vous êtes accroché, ça va, ça
oui.
va, t'arrives à suivre.
Ah ouais, je suis.
Moi, j'adore sa vision des choses. Avec l'Empire, Bruno Dumont a joué le jeu du genre avec la présence de planètes antagonistes, de forces adverses, de rayons laser et autres cavaliers de l'apocalypse. Le metteur en scène explique « Ce sont surtout des genres cinématographiques qui sont ici assemblés et, avec eux, leurs visions opposées qui, du coup, rejambent entre elles. Le tout prépare, pour ainsi dire, le Maelstrom, un genre épique tout en majuscule, le mythe avec tout l'attirail des héros et des vaisseaux spatiaux, les idéaux bien séparés et distincts, le bien d'un côté et le mal de l'autre. » un genre naturaliste tout en minuscule, le réel et l'histoire avec la vicissitude de la condition humaine et l'enchevêtrement inexorable des passions. Là où tout est mêlé, la vie humaine dans laquelle tous les hommes et les femmes se démènent. L'ensemble à la bascule continuelle du tragique et du comique, parce qu'elle est l'effet majeur et le jeu naturel de cet assortiment. La planche savonnée, celle de la tragicomédie de l'existence humaine. C'est quand même assez profond comme réalité.
Ah oui, j'imagine, ouais.
Voilà un petit peu pour je peux continuer comme ça, mais j'ai peur de vous perdre.
Ah oui, il faut venir voir, hein, se faire une idée.
Voilà, c'est super déjanté, ça fait rire parfois, il y a quand même des situations assez loufoques. Voilà, la curiosité, faut être curieux. Soyez curieux et surtout faut venir voir ça avec une certaine légèreté aussi. Hein. Faut pas tout prendre au pied de la lettre. Voilà, ouais. Ça reste de la science-fiction
du second degré
française. Oui, sans tout l'attirail des grosses productions. Attention. Hein.
Donc, eh bien, écoute, on va écouter un extrait puis on se retrouve juste après.
Et dans son proche.
Sire, vous voici enfin parmi nous.
Ne tardons pas.
Nous livrons bataille pour la cause dont vous êtes la souveraine, ici, sur la Terre.
Vous avez pas vu un ovni ?
Un quoi ?
Un ovni.
Les humains sont attachants. C'est pour cela que nous allons envahir la Terre tout entière. Le prince des ténèbres doit être enlevé de la surface de la Terre.
Celui qui touche à mon crédit, il y a deux pieds à sa gueule.
L'entreprise est vouée à l'échec.
La gendarmerie sont de coup.
Mais les humains, Johnny, sont nuls.
Faites attention à ce que vous dites. Vous vous adressez quand même à la gendarmerie nationale.
So what?
Les forces adverses sont redoutables.
Même si on est ennemi, t'es vraiment belle.
Tu veux que je te la dégage? Utilisons la force, on a la sagesse.
T'as pas peur du démon, toi?
J'ai surtout pas peur des hommes.
C'est une belle bande de losers.
C'est peu de le dire.
Ils vont s'en prendre plein la gueule.
À la bataille! Et qu'adviennent mon empire!
Bah allez, où la voiture?
Ouais, là, la voiture qui est partie.
Voilà, l'Empire, ça dégage.
Voilà, alors juste pour quand même pour vous préciser, quand même, c'est tourné dans le Boulonnais. C'est vrai que le réalisateur aime beaucoup ces pays du Nord, ces provinces là-bas. C'est pour ça qu'il y a un film qui s'appelle Flandre.
Ah ouais.
Et c'est vraiment tourné là-bas. Hein. Ils viennent du Boulonnais, une région naturelle maritime située sur le littoral de la Manche. Mais je veux quand même lire, alors juste pour terminer, comment il parle de Fabrice Lucchini. Donc le réalisateur note, Fabrice Lucchini marche droit à l'oreillette et c'est lui qui marche. Son costume théâtral l'a vite monté au rideau et perché si haut, il a magistralement interprété l'oiseau. Le sérieux confine si naturellement au burlesque chez cet homme qui monte en spirale et descend en piqué, telle une alouette au-dessus d'un champ agricole, chantant à tue-tête sa trille, consacrant à cette grande bascule d'âme si profondément humaine, son tragicomique.
J'aime bien.
Voilà un petit peu le monsieur Dumont, hein, comme, voilà, c'est son vraiment son descriptif est aussi loufoque que ses films. Mais j'aime beaucoup.
L'Empire, à voir cette semaine à la Brèche. Et justement, on va parler d'une comédienne, d'une actrice qui sera sur les écrans cette semaine, Camille Cotin.
Camille Cotin, oui. Une actrice française qui est née le 1er décembre 1978 à Paris. Ce qui nous fait une très jeune fille de 45 ans.
C'est bien.
Oui, c'est bien. Camille Cotin, c'est 23 années de carrière, 47 films et séries tournées. Et c'est vrai qu'elle a commencé par pas mal de séries. Deux prix. En 2018, au Festival de comédie de l'Alpe d'Huez, elle reçoit le prix d'interprétation pour le film Largué. Et en 2019, elle reçoit le Globe de Cristal de la meilleure actrice de fiction télévisée. Alors au niveau de sa filmographie, alors j'ai noté quand même quelques films, évidemment, je n'ai pas noté 47. Hein. En 2001, elle apparaît pour la première fois en 2001 dans le film Yamakasi d'Ariel Zeitoun avec Joe Beldin et Williams Bell. Mm-hmm. De 2006 à 2008, on la verra dans PJ, saison 17 et 21.
Ah oui, je me rappelle de ça.
Tu vois,
cette série
va fourbir ses armes dans les séries télévisées. En 2013, elle fera la saison 1 de Co.
Je vois pas.
Connasse.
Ah oui, d'accord.
Ok.
En 2014, elle tournera le film dans Connasse, Princesse des Cœurs.
Ah, c'est bien.
Où elle est absolument horrible dans le film. Moi, j'ai quand même pas mal aimé. Je l'ai vu un petit peu sur le tard. En 2016, elle jouera dans ce très bon film de Robert Zemeckis avec Brad Pitt et Marion Cotillard. Ah. Allié.
Ah oui.
Très bon film.
Ah, mais c'est vrai, oui.
Très, très bon film.
Ah, bah, je l'ai vu. Ouais.
En 2018, elle jouera dans Les Fauves. De Vincent Mariette avec Lily Rose Depp et Laurent Lafitte. Mmh. En 2018, ça c'est le film qui va la consacrer évidemment, Largué de Héloïse Lang avec Camille Chameau et Miu Miu. En 2019, Chambre 212 de donc Christophe Honoré avec Chiara Mastroianni et Vincent Lacoste. En 2021, on le reçoit dans House of Gucci de Ridley Scott.
Oui.
Avec Lady Gaga, Adam Driver et Al Pacino. Un film qui n'a pas très, très bien marché, entre parenthèses. Ridley Scott, là, il a pas fait.
Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé, effectivement.
Moi, je pensais que ça allait un petit peu cartonner, tout ça, on en avait parlé. Voilà, il n'a pas eu le résultat escompté. Mm-hmm. En 2023, un très bon film de Nathan Ambrogioni avec Léa Lopez et Thomas Griora. C'est Tony en famille. Mm-hmm. Histoire de cette mère de famille là, qui refait un petit peu sa vie. En 2023, toujours, on l'a vu dans le film de Kenneth Branagh.
Ah oui, alors Tina ça, c'est la suite des enquêtes de...
Hein ? Hercule Poirot.
Hercule Poirot.
Que je croyais français, qui est belge.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Mystère.
À Venise.
Mystère à Venise, exactement. Avec une belle introduction.
Ça a été un des troisièmes volets qui a peut-être le moins marché des trois.
D'accord. Je sais pas, j'ai pas regardé les chiffres, tu vois. Il a moins bien marché.
Ben oui.
C'est dommage parce que moi j'ai vu que la scène d'ouverture qui est grandiose.
Ah oui.
Tu vois Hercule Poirot en train de prendre son petit déjeuner sur les canaux de Venise.
Ah oui, c'est vrai.
Et c'est hyper beau.
Ah oui.
C'est vraiment très très bien filmé.
Non, j'ai bien apprécié, mais apparemment ça n'a pas été le meilleur des trois.
Hélas.
Hélas.
Et pourtant il fait quand même des belles images, Kenneth Branagh. Il commence à maîtriser quand même son sujet. La biographie de Camille Cotin, alors qui est-elle ? Donc, parisienne de naissance, Camille Cotin passe 5 années de son adolescence en Angleterre. De retour dans l'Hexagone, elle dispense des cours d'anglais dans un lycée de la capitale. Mais cette passionnée de théâtre n'y trouve pas son compte et rêve de scène et de comédie, si bien qu'à côté de ses fonctions d'enseignante, elle se forme à l'école de théâtre et d'art dramatique Jean Périmoni. En 1998, elle rejoint une petite troupe et se produit dans une pièce intitulée Barrio Chino et 2 ans plus tard décroche son premier rôle au cinéma dans Yamakasi d'Ariel Zeytoun. L'actrice multiplie ensuite les apparitions tant à la télévision que dans Femme de loi, je l'oubliais celui-là, Femme de loi, PJ, qu'au théâtre où elle mène une riche carrière sous la direction de Pierre Palmade qui l'intègre à sa troupe en 2009. 2013 est l'année du succès. Repérée par ses talents de comédienne dans... c'est un long comédien, Camille Cotin se voit confier des rôles en or. Elle apparaît dans la série familiale Peps, sous les traits de Marina Truffen, un parent d'élèves aux méthodes strictes, mais c'est surtout révélé par son rôle dans Connasse, le programme court de Canal+, où derrière une caméra cachée, elle sème la pagaille dans chacun des lieux où elle se rend. Malpolie, franche et sans aucun scrupule, la connasse séduit et suscite des éclats de rire à chacune de ses apparitions. La même année, elle donne la réplique à Audrey Fleurot et Camille Chamou dans Les Gazelles. Sa notoriété s'accentue. Camille Cotin prend part à la comédie, donc toute première fois en 2015, dans laquelle elle joue aux côtés de Pio Marmaille et Franck Gastambide. La même année sort en salle Connasse, Princesse des Cœurs, qui n'est autre que l'adaptation de la mini-série de sketch Connasse, qui est un joli succès au box-office français. Fort de ce succès, la comédienne est à l'affiche des comédies comme Les Gorilles et Cigarette et Chocolat Chaud. Elle goûte aussi au thriller via Iris de Jalil Lespert et prend part à la série à succès, donc 10% via le rôle d'Andrea Gérant, Les Caprices de Star. Camille Cotin est ensuite en tête d'affiche avec Juliette Binoche de Telle mère, telle fille, réalisé par quelqu'un qu'elle connaît bien, puisqu'il s'agit de Noémie Saglio. En 2018, elle cherche à remonter le moral de sa mère qui vient d'être plaquée par son mari en l'amenant dans un club de vacances sur l'île de La Réunion. La native de Paris goûte également à des registres plus dramatiques comme avec Les Éblouis, où elle campe une mère qui s'engage avec sa famille dans une communauté charismatique religieuse. L'année 2021 est chargée pour Camille. Elle aide Matt Damon qui cherche à faire sortir sa fille de prison dans le thriller se déroulant à Marseille. Stillwater, exact. Stillwater, qui passait complètement inaperçu.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, oui. Ouais. Et il rejoint le casting 4 étoiles du biopic de Ridley Scott dans House of Gucci et incarne l'épouse avocate du légionnaire Louise Carrel. 2 ans plus tard, elle trouve un rôle fort dans Tony en famille, celui qui a quand même un peu plus marché. Celle d'une mère célibataire élevant 5 enfants et poursuit sa carrière américaine en jouant une ancienne nonne devenue gouvernante dans Mystère à Venise. Voilà un petit peu pour vous éclairer sur la carrière de Camille Cotin, qui est loin d'être terminée.
Voilà, et donc si on vous souhaite, ne la connaissez pas, voilà. Vous la verrez dans une publicité de café.
Oui. Oui,
on peut, je disais en début d'émission.
On peut chuter là-dessus. Si vous effectivement, voilà. Mais
si vous aimez être caféiné, voilà,
on lui souhaite vraiment une longue, longue carrière, Camille Cotin, qui est une excellente actrice.
Hein, alors moi, quand je l'ai vue, je l'ai aperçue la première fois. Je crois que c'est une actrice anglaise, en fait.
D'accord. Donc c'est assez bien fondu alors dans le.
Bah oui, absolument.
Elle a grandi en Angleterre.
Ah mais non, mais c'est oui. C'est vrai. C'est plutôt plutôt sympa de la découvrir et puis comme tu l'as dit.
Mais c'est pour ça que aussi. Oui. Une carrière avec même elle peut avoir une carrière internationale dans la mesure où elle a bossé pour Ridley Scott.
Oui. Ça devrait le faire.
Et Kenneth Branagh, oui, ça devrait le faire.
Ça ouvre des portes.
Alors un petit rappel quand même avant de se quitter.
Oui. Du 24 au 26.
Du 24 au 26, bien sûr.
Les oiseaux chantent.
Le printemps du cinéma. Ouais. Les alouettes.
Les alouettes reviennent.
Comme dit.
Les hirondelles.
Monsieur Dumont.
Oui, c'est vrai.
Le printemps du cinéma. Dimanche 24, lundi 25, mardi 26. Alors on aura plein de films évidemment pour le printemps du cinéma. On aura Karaoke, Boléro, Imaginary, Interdit moins de 12 ans, Hors saison, Dune, 14 jours pour aller mieux. Black Tea, La théorie du boxeur, Comme un fils, Madame de Sévigné, L'Empire, Louise Diolé, voilà, on aura tous ces films-là, évidemment, et on reprend aussi, donc Bob Marley, One Love, Astérix, Obélix, L'Empire du Milieu, fera partie du printemps du cinéma, et Alibi.com 2, à 21h.
Vous avez rigolé.
Donc ça sera le mardi 26,
vu, voilà. C'est marrant.
Alibi.com 2, encore on reprend pour le printemps du cinéma. Donc voilà, du choix. Beaucoup de choix.
Ouais.
5€ la place. Faut pas se priver. Franchement, faut pas se priver.
Bah, c'est le
printemps. Même s'il fait beau dehors, il y a le printemps du cinéma, n'oubliez pas.
C'est important, comme chaque année. Merci Pascal pour ce coup de projecteur sur les rendez-vous de la semaine au cinéma de la Brèche, dans ces 3 salles, hein, on le rappelle. Hein. Ouvert quasiment tous les jours, 24/24.
Hein. C'est ouvert tous les jours.
En fait, je dis quasiment parce que bon, faut dormir aussi un petit peu. Hein.
Un petit peu.
Merci Pascal pour ce nouveau rendez-vous d'Entracte. Évidemment, on te retrouve en podcast sur la radio aussi pour ceux qui auraient raté l'émission en direct sur.
Et derrière la caisse du cinéma.
Il est partout Pascal. C'est une machine.
Oui.
T'aurais pu jouer dans l'Empire, tiens.
Ouais, presque.
Allez, je laisse le mot de la fin.
Eh bien, prenez soin des vôtres, regardez-moi la télé, écoutez Radio Grand Air et venez tous au printemps du cinéma. On vous attend nombreux. Très bonne
sourire.
Semaine à tous, très bonne semaine cinématographique. Voilà, profitez.
Merci Pascal.
Merci Christophe, à très bientôt.